joue avec vous un temps d'antenne animé par Cathy Vanel qui aime se balader et vous rencontrer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la rentrée, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'émissions réalisées avec vous et pour vous. Chaque jour, nos activités donnent lieu à la production d'innombrables données personnelles qui sont numérisées et ne seront jamais effacées. Qu'entend-on par données personnelles? Quel genre de business alimente-t-elle? Quel danger nous guette et que faire pour s'en protéger? Pour m'éclairer sur ces questions, j'ai invité aujourd'hui une experte en la matière, Laurane Raimondo. Bonjour Laurane.
Bonjour Cathy.
Alors, vous avez grandi à Cuisia et vous vous êtes installée sur Bourg il y a 4 ans, après avoir voyagé dans plusieurs pays étrangers. Vous enseignez la cybersécurité et les données personnelles à l'Université Lyon 3 et en parallèle, vous exercez la profession de délégué à la protection des données à l'UDAF de Lyon. Comme vous êtes infatigable, vous achevez également la rédaction d'un livre à paraître début janvier 2021, qui est un ouvrage de vulgarisation sur les données personnelles. Qu'entend-on par données personnelles?
Alors, les données personnelles, elles ne sont pas forcément sous forme numérique, par exemple, mais c'est à peu près tout ce qui concerne une personne et qui permet de l'identifier. Donc ça peut être évidemment son nom, la plaque d'immatriculation de sa voiture, son numéro de téléphone, mais aussi sa religion, ses opinions, mais également un rythme cardiaque qui est propre à chacun, un style d'écriture même, ou des données de santé.
Alors ça recouvre beaucoup de choses et pour avoir une idée plus concrète, je vous propose de prendre un personnage fictif, disons une femme de 30 ans que nous allons appeler Léa. Elle habite à 2 heures de train de Paris et elle a prévu de passer le week-end dans la capitale avec des amis. Elle commence la journée de samedi en cherchant à partir du moteur de recherche Google l'adresse d'un musée de peinture à visiter, l'adresse de quelques grands magasins, on va dire à dévaliser, pardon pour le cliché, et de 2 ou 3 restos sympas. Alors, que va-t-elle produire comme données personnelles? Que va-t-elle laisser comme trace?
Alors, ce dont Léa ne se rend pas compte, c'est qu'avant même d'avoir tapé sa recherche sur Google, je recommande d'ailleurs des alternatives de moteurs de recherche.
On en parlera peut-être à la fin de l'émission.
C'est que son projet est déjà connu. C'est-à-dire qu'elle a eu des contacts un peu plus intensifiés sur une période donnée avec les amis qu'elle va aller voir, ce qui ressort assez facilement dans un algorithme. Elle a aussi acheté un billet de train, probablement sur Internet, donc via Google si elle a déjà tapé sa recherche sur Google. Et les entreprises qui ont déposé des cookies tierces, la SNCF ou sa banque, savent déjà qu'elle part, notamment. Le week-end en question, également, elle va semer une infinité de données. Et c'est un petit peu difficile d'en faire la liste. Mais partons du principe que, comme la majorité des personnes, elle ne fait pas vraiment attention aux dites données, elle est déjà identifiée. Donc les données qu'elle va rechercher vont simplement en fait s'ajouter aux autres informations qui constituent déjà son profil et compléter la liste de ses intérêts, de ses capacités financières, de son cercle de contacts, etc.
On continue donc avec Léa. Avant de quitter son domicile, elle vérifie qu'elle a bien sur son smartphone son billet de train, sa réservation d'hôtel parisien et celle du taxi pour se rendre à la gare. Là encore, Léa a généré un certain nombre de données personnelles intéressantes.
Effectivement, mais les données existent déjà au moment où elle a effectué la première recherche de trajet, d'hôtel et de moyens de transport. Et puis, elle a utilisé sa carte bancaire pour faire la réservation. Par exemple, le compteur Linky saura qu'elle s'est absentée parce qu'on a une faible consommation d'énergie sur le week-end. Les données de localisation vont suivre son parcours. Ses connexions au Wi-Fi public vont enrichir d'autres bases de données, en plus d'ailleurs de l'exposer à des risques assez sérieux, etc. Mais c'est aussi le comportement de Léa qui va beaucoup jouer. Si elle publie des photos de son parcours sur les réseaux sociaux, des personnes mal intentionnées pourront savoir, par exemple, qu'elle est partie en week-end et donc que la maison est vide. Si elle se connecte au réseau Wi-Fi public, sans protection, elle a un assez grand pourcentage de chances de se faire pirater. On a souvent des personnes, par exemple, dans les gares ou les restaurants qui se posent et attendent comme ça de pouvoir capter les données de personnes qui ne sont pas protégées par un VPN.
Une fois arrivée à Paris, Léa prévient ses amis par SMS et elle se retrouve devant le centre commercial Les Quatre Temps à la Défense, où elle s'achètera un parfum à 100 € qu'elle va régler avec sa carte bancaire.
Alors, lorsqu'elle arrive au centre commercial, il faut savoir que Les Quatre Temps fait partie des nombreux centres qui collectent les données des visiteurs via un Wi-Fi public.
Donc, à leur insu.
C'était plus ou moins à leur insu jusqu'à ce que la CNIL le retoque ça en 2017 et que d'une petite pancarte quasiment invisible, elle se mette à informer un peu plus précisément les utilisateurs.
Mais les utilisateurs ne voient pas la pancarte particulièrement.
Non, non, non. C'est assez difficile en réalité aujourd'hui de se faire réellement informer en temps réel de ce type de collecte de données. La connexion au Wi-Fi public en fait, du centre commercial des Quatre Temps est extrêmement encouragée, tout simplement parce que ça leur permet justement de savoir ce que font exactement les visiteurs, d'identifier le visiteur en question par le numéro MAC du téléphone, qui est un identifiant unique et quasiment impossible en fait, à modifier, sauf à router le portable, mais là on entre dans quelque chose d'un peu trop complexe.
Oui.
Ils vont savoir combien de temps elle est restée dans le centre commercial, exactement toutes les boutiques qu'elle a visitées, combien de temps elle est restée dans chaque boutique. Et via ses achats avec la carte bancaire, en couplant les données, on sait du coup à la fois ce qu'elle a acheté en plus de ça. Donc si elle s'attable à une terrasse et qu'une personne vient la voir et lui dit très exactement tout ce qu'elle a fait de sa journée, tout ce qu'elle a acheté, à qui est destiné le cadeau dans le sac X ou Y qu'elle porte, ça ferait fuir ou au moins paniquer à peu près n'importe qui. Sauf que personne ne réagit parce que quasiment personne n'est informé.
Voilà, tout à fait. Alors, ça ne s'arrête pas là avec notre Léa, parce que durant le voyage de retour, elle va publier sur son compte Facebook toutes les photos de son week-end. Facebook possède son nom, son prénom, sa date de naissance. Éventuellement, si elle a renseigné les champs, sa profession, ses passions, ses musiques, ses films préférés.
Même si elle n'a pas renseigné les champs, ils le savent. Soyez-en certaine.
D'accord. Alors, toutes ces informations, Facebook va les vendre à des entreprises désireuses de faire de la publicité ciblée. Comment ça marche? Eh bien, c'est tout simple. On écoute Alexis, un jeune fabricant de cookies. Il habite à Paris. Il prépare sa nouvelle campagne publicitaire sur Facebook où il va choisir le profil exact des destinataires de sa publicité.
Donc là, je crée une nouvelle campagne de publicité sur Facebook.
Ce jour-là, Alexis a décidé de faire de la pub pour ses deux boutiques. Dans quelques minutes, certains internautes pourront découvrir ce petit panneau publicitaire sur leur page Facebook. Et pas n'importe quel internaute. Le jeune homme va pouvoir sélectionner ceux qui verront sa pub parmi le milliard d'abonnés du site. Et la méthode proposée a de quoi surprendre.
Ça, c'est l'étape cruciale. C'est le moment où on cible l'audience de la campagne de publicité.
Cibler l'audience, cela veut dire qu'Alexis ne va s'adresser qu'à un type très précis d'abonnés, uniquement ceux qui ont une chance de devenir ses clients. Alors sur le site, il va faire ses courses et choisir ses cibles. Le jeune homme commence par déterminer un pays, la France. Mais surtout la ville où résident les abonnés Facebook qu'il a dans sa ligne de mire. Ce sera Paris et les communes alentours. Pas utile d'aller voir plus loin.
Comme aujourd'hui, mes boutiques sont uniquement à Paris et qu'on ne livre, on fait beaucoup de ventes à distance, mais qu'à Paris. Voilà, je suis pas très intéressé par le fait qu'un Lyonnais ou un Bordelais entendent parler de la fabrique Cookie, pour le moment en tout cas.
Ensuite, Alexis va pouvoir choisir l'âge de ses cibles. Il ne veut que des majeurs. Mais s'il le voulait, il pourrait être encore plus difficile. Car Facebook propose des dizaines de critères différents. Alexis pourrait par exemple choisir de ne s'adresser qu'à des célibataires, des hommes ou des femmes, des couples mariés, des passionnés de lecture, de jardinage, de cuisine ou de bricolage.
Voilà, c'est simple, rapide et pas cher, puisque pour un mois, Alexis ne payera que 150 euros à Facebook, au lieu de 2000 euros s'il était passé par un média classique. Finalement, ce type de publicité ciblée convient à tout le monde, aux annonceurs et aux personnes qui ont le profil recherché, non ?
Alors, la première problématique ici, c'est quand même le manque de transparence. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez autorisé le ciblage ? Est-ce que vous savez qui se permet de faire de vous une ressource financière ? Certains pensent que le ciblage est une bonne chose parce qu'ainsi, on me propose ce dont j'ai besoin. Sauf que c'est une erreur de jugement absolument monumentale. C'est peut-être un avantage, évidemment, qu'une personne de 30 ans ne propose pas un appareil auditif. Mais il faut savoir que non seulement le champ des possibles se réduit drastiquement avec cette méthode, mais qu'en plus on finit par être persuadé que ce qui vous est mis sous le nez est ce dont vous avez vraiment besoin. Par exemple, en faisant une recherche sur une paire d'écouteurs. Le site connaît déjà votre sexe, votre budget, vos préférences dans leur globalité, et il va vous proposer trois paires au choix. Non pas parce que c'est ce dont vous avez besoin, mais parce qu'eux ont besoin de vendre ce qu'ils vous proposent. Donc, votre choix va être guidé selon votre genre, l'argent qu'ils supposent que vous pourrez mettre dedans, même si une paire d'écouteurs d'excellente qualité trois fois moins chère existe, et selon également ce que vous avez acheté au préalable. Autrement dit, vous auriez pu préférer en fait une paire beaucoup plus stylée, plus confortable et vraiment moins chère. Mais vous êtes persuadé d'avoir acheté ce qu'il vous fallait puisque le site vous l'a présenté ainsi. Mais personne ou presque ne sait que les recherches sur les moteurs sont biaisées selon la personne identifiée, donc via les cookies présents sur l'appareil, que c'est également biaisé selon son sexe, son statut social ou sa localisation, comme l'exemple de notre vendeur de cookies. Et un autre exemple, c'est que le même produit peut être vendu deux fois plus cher à un Français qu'à un Malgache. Voilà, une autre forme de discrimination.
La vente de nos données personnelles rapporte chaque année des milliards aux géants d'Internet que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qu'on appelle les GAFAM. Mais ils sont loin d'être les seuls à faire du business avec nos données. Parlez-nous des redoutables data brokers.
Effectivement, les GAFAM c'est une chose, les data brokers sont encore une autre. Ces entreprises, elles sont quasiment inconnues du grand public. Elles existent pourtant depuis les années 60 à peu près. Elles sont environ 4000 dans le monde et elles brassent un marché de la donnée personnelle, enfin de la donnée tout court, de plus de 170 milliards d'euros, donc à peu près 200 milliards de dollars. Il est strictement concentré sur les données. On peut distinguer à peu près trois sortes de ces entreprises. Donc il y a celles qui se concentrent sur le marketing et la publicité, il y a celles qui sont plus ciblées sur la détection des fraudes, et celles qui sont spécialisées dans les risques. Donc c'est un peu comme l'évaluation de la solvabilité d'une personne. Ces sociétés sont complètement invisibles et assez dangereuses pour les libertés fondamentales, principalement pour le droit à la vie privée. Ce qui est légal n'est pas forcément éthique, on le sait tous, et elles aussi. Jusqu'ici, collecter des masses d'informations quasiment sans cadre légal était autorisé. À présent, c'est un peu devenu une zone grise. Il faut savoir que les entreprises de data brokers achètent les données à d'autres entreprises pour enrichir un profil dont elles collectent par elles-mêmes d'ailleurs des quantités folles de données. Une entreprise de data brokers en sait souvent plus sur les activités d'un adolescent que sa propre mère. Elles peuvent détenir jusqu'à 1500 points de données sur une personne, donc 1500 informations sur une seule personne.
Tous ceux qui traitent nos données personnelles, ils sont nombreux, sont soumis à des lois. Quelles sont-elles, ces lois ?
Alors, absolument tout organisme, quel qu'il soit, donc administration, entreprise, association, etc., et qui traite des données de citoyens d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, est soumis à la fois au règlement général sur la protection des données personnelles, qui est un règlement assez fort, mais vraiment indispensable face aux dérives et aux risques qu'engendre l'utilisation massive du cyberespace. Mais en France, on a également une loi nationale qui est la loi que l'on appelle Informatique et Liberté. La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Et d'autres lois, bien sûr, qui viennent un peu en complément selon les secteurs.
D'accord. Et maintenant, donc, on est obligé de nous demander notre consentement quand on va sur un site, par exemple, pour parler d'Internet.
Alors, quand on va sur un site, tout le monde, effectivement, connaît la petite case « j'accepte », qui est écrit en gros, en vert, etc. Et on connaît beaucoup moins la petite case grise à côté « paramétrer vos choix ». Effectivement, surfer sur un site, c'est donner votre consentement pour le dépôt de certains cookies et la collecte de certaines informations. Mais là encore, tout n'est pas extrêmement clair.
Alors, toutes ces lois, elles sont nécessaires. Pour autant, elles ne nous protègent pas complètement des dangers qui nous guettent. Les escrocs, la curiosité des assureurs, la reconnaissance faciale, la volonté pour les États totalitaires et même démocratiques de surveiller les masses, de museler toute opposition. Il existe énormément de dangers.
Pour ça, je recommande déjà deux documentaires pour se rendre compte. Donc « Nothing to hide », qui est relatif à la réponse traditionnelle « je n'ai rien à cacher », que l'on entend assez souvent quand on demande aux personnes si elles se préoccupent de leurs données personnelles. Et le très intéressant documentaire diffusé sur Arte, « Tous surveiller 7 milliards de suspects ». Donner à un État les moyens de surveiller sa population et de parer à la plus grande crainte des dirigeants, c'est-à-dire prévenir et étouffer les mouvements sociaux, qui pourrait y résister ? Depuis 2011, les États-Unis et depuis 2015, un peu plus récemment, la France et d'autres pays, bien entendu, se servent de, on va dire, l'excuse du terrorisme pour justifier des collectes de masse et des surveillances parfois abusives. En France, évidemment, on a des garde-fous un petit peu plus importants. Aux États-Unis, c'est devenu quelque chose de courant que quelques associations donc, qui défendent les droits fondamentaux essaient de combattre. Les révélations de Snowden en 2013 ont révélé que la moitié des Américains étaient fichés et qu'ils collectaient beaucoup plus d'informations et de données sur les Américains eux-mêmes que des informations venant de l'étranger. Les États-Unis ont un rapport extrêmement différent avec les données personnelles. Ils les considèrent comme des biens marchands. Bon, en fait, ils les achètent.
Ouais.
Ils achètent les données. Ouais, bon. Ouais.
Quel conseil peut-on donner pour réduire les risques liés au traitement de nos données personnelles ?
Alors déjà, c'est de savoir que quasiment tout ce que l'on fait peut laisser une trace, notamment dans le cyberespace. La première chose, c'est de se protéger avec un antivirus et un pare-feu fiable. Et il faut mettre un petit peu la main à la poche pour ça. Il faut l'accepter. Ça coûtera une trentaine d'euros par an, mais c'est nécessaire. Ensuite, c'est aussi un VPN. C'est-à-dire qu'il faut arriver à protéger ses activités, à se créer un réseau privé. Ça a aussi un petit coût, une trentaine d'euros par an, pareil. Mais si vous voulez vous connecter à un Wi-Fi public, par exemple, n'importe qui peut savoir ce que vous faites en temps réel. Avec un VPN, vos informations seront chiffrées et on n'y aura pas accès, pour la faire courte. Ensuite, le comportement, c'est aussi en ligne. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur n'importe quel site, on ne clique pas sur n'importe quel lien et on fait attention à tous les messages que l'on reçoit. On ne clique pas sur un message un peu bizarre avec un lien qui nous renverrait vers un site qui nous demanderait des données extrêmement personnelles, par exemple. On fait attention aux messages non sollicités également. Voilà, souvent, les faux messages des impôts, de l'assurance maladie ou d'un opérateur téléphonique qui vous fait paniquer en disant « votre compte va être fermé si vous ne cliquez pas sur ce lien et renseignez tel ou tel champ ». Bref, donc c'est avoir du bon sens dans cet univers et également savoir se protéger quand on surfe sur différents sites, donc paramétrer les cookies et ne pas utiliser n'importe quel moteur de recherche et navigateur.
Donc voilà. Éviter autant que faire se peut Google, même s'il nous propose énormément d'informations.
Alors, Google a un très bon moteur de recherche. Je l'utilise également, mais jamais sans avoir activé le VPN, par exemple. On peut utiliser, déjà en navigateur, on a quoi ? On a Opera, qui est pas mal, Mozilla. Et en moteur de recherche, on a aussi, par exemple, le français Quant, qui est plutôt bien référencé à ce niveau-là, qui efface les données des utilisateurs une fois que la recherche est terminée. On a Brave aussi, qui est un Irlandais et qui fonctionne un peu de la même façon et un des champions de la vie privée.
On évite également d'enregistrer ses mots de passe.
On n'enregistre jamais ses mots de passe. On se sert de sa mémoire. C'est naturel, gratuit, merveilleux, c'est la nature, hein. On retient ses mots de passe, on n'enregistre jamais sur les navigateurs, on ne les écrit pas sur un petit carnet ou à côté de son ordinateur sur un post-it.
Et geste très important, on n'oublie pas d'effacer les cookies sur notre navigateur. Le temps passe très vite, nous n'avons fait que survoler la question de la protection de nos données personnelles, mais j'espère que nous aurons au moins éveillé la curiosité de nos auditeurs. que je renvoie à votre ouvrage, Laurane, à paraître en janvier 2021. Quel est son titre ?
Sans question-réponse sur les données personnelles, qui sera publié chez Ellipse.
Merci, merci Laurane Raimondeau d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous, Cathy.
Bonne journée et à bientôt.